démarrer. Bonsoir, c'est le cours sur les psaumes du Père Warny, le 29 février. Je vous invite à prendre la page 1, qui était notre feuille de route. Hein,
c'est
le
29 janvier.
29 janvier. Voilà. La page 1, qui était notre feuille de route. On s'était posé la question, pourquoi mieux connaître, pratiquer les psaumes. Souvent, c'est par ignorance ou des objections pas nécessairement fondées, qu'on y est réticent. Et pourtant, on a vu comment les psaumes sont nourrissants tout au fil de l'histoire de l'Église jusque de nos jours. La spécificité de ce livre biblique, il y a des pièces psalmiques, ça et là, dans la Bible, mais le propre du livre des psaumes, c'est de rassembler des psaumes qui ont été composés à diverses époques. Et donc, il ne faut pas nous étonner que le recueil garde un certain caractère composite. Ce n'est pas un écrit systématique dont on aurait fait un plan à l'avance. On a recueilli des psaumes, mais à des époques différentes. Alors, bien sûr, il y a eu des regroupements. Et on peut discerner, selon le tableau que je vous ai donné à la page 2 et qu'on a déjà un peu parcouru, on peut discerner des groupes, soit par leur origine, ce qu'on appelle la grande collection, ou le petit recueil davidique, soit par des thématiques, regroupement de psaumes du règne, de cantiques démontées, etc. Mais toujours est-il que ce livre, je dirais, recueil, c'est un recueil. Supposons que vous arrivez à l'écriture poétique, et bien, selon l'inspiration, au fil des années, vous écrivez tel ou tel poème, puis à un moment donné, vous décidez de les rassembler en un recueil. Bien, sauf si vous aviez une intention délibérée d'écrire un recueil de poèmes vraiment dans telle ligne thématique, et non, vous opérez à ce moment-là une mise en ordre pour une présentation suffisamment organique dans un livre. J'avais dit un mot de la numérotation des psaumes, là, qui pour l'ensemble marque un retard d'unité dans le texte grec par rapport au texte hébraïque. Et donc c'est toujours signalé, le second chiffre, entre parenthèses, dans la Bible. Et puis on avait commencé à jeter un coup d'œil sur le tableau de la page 2, je vous invite à l'avoir sous les yeux. Il y a, vous voyez, c'est repris en tête, il y a à la fin de chaque groupe, qu'on a identifié comme tel, une doxologie. Une doxologie qui est reprise dans le portefeuille à la page 2 bis, à la fin de chaque groupe de psaumes. Une doxologie, c'est une acclamation qui rend gloire à Dieu. Doxa en grec veut dire la gloire, l'autorité. Et par exemple, dans la liturgie eucharistique, la grande doxologie, c'est celle qui finit le canon eucharistique par lui, avec lui et en lui, etc. Et on répond Amen. Et bien de même, il y a des doxologies qui ponctuent le livre des psaumes et qui marquent les finales de certains regroupements, de certains ensembles. Vous l'avez à la page 2 bis, psaume 41, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen et Amen. » Psaume 72, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le seul qui fasse des miracles. Béni soit donné son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen et Amen. » Et en plus, au verset 20, il y a une petite formule récapitulative, « Fin des prières de David, fils de Jessé. » C'est pour ça qu'on dit, qu'on peut terminer là, outre les raisons de contenu, mais déjà cette indication peut faire terminer, là, le petit recueil de David. Ainsi, vous avez les cinq doxologies, vous voyez qu'elles comportent toujours deux éléments, « Béni soit, béni soit, béni soit. » Et puis, une acclamation finale, « Amen, Amen, Amen. » Amen, Alléluia, Alléluia, qui est le célébrant éventuellement dit la doxologie, et comme nous le faisons dans l'Eucharistie, nous y adhérons en disant Amen. C'est ça qu'on appelle une doxologie. Et donc c'est un des critères de division de cet ensemble en cinq livres. Alors, certains, mais il ne faut pas forcer ces rapprochements, on dit la division en cinq parties du livre des psaumes peut faire penser à, respectivement, chacun des cinq livres de la Torah, du Pentateuque. Le premier ensemble biblique contient cinq livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et donc certains ont rapporté des éléments de contenu de la première section à Genèse, de la deuxième section à Exode, etc. Alors, parfois, dans un certain nombre de cas, ça peut être suggestif et parlant, mais c'est le genre de choses qu'il ne faut pas vouloir systématiser à l'excès. Alors dans la colonne vers la droite, là, les deux colonnes vers la droite, je vous ai mis des éléments, je dirais, de type thématique, qui tous au psaume du début et de la fin de chacune des sections. Alors vous voyez que la réalité, dans les trois premiers sous-ensembles, la réalité de la souffrance personnelle, ou bien du combat, qui alors s'adosse à une espérance, mais est une réalité quand même qui marque les psaumes. Le nom de psaume qui exprime une détresse, un cri, une plainte, à côté bien sûr de psaume de louange, ou bien comme on verra à l'intérieur d'un psaume, il peut y avoir un mouvement qui part de l'expression d'une détresse, un appel au secours, puis la perspective et l'assurance d'un exaucement. Mais toujours est-il que quand on voit un peu les psaumes liminaires, le début et la fin, de ces ensembles, ils sont indicatifs. Et en avançant vers la quatrième, cinquième partie du psaume, on a une tonalité résolument plus positive, le règne de Dieu Messie, mais qui ne nie pas la fragilité de l'homme, comme dans le psaume 90 par exemple, et puis la finale du psaume monte en louange de l'homme par rapport à son créateur, avec les psaumes de la finale en hallel, qui loue pleinement le Seigneur, le psaume final qui convoque tous les instruments, louez-le, tambour, flûte, trompette, etc., qui se termine ainsi un peu en point d'orgue. Voilà quelques, je dirais simplement, suggestions de thèmes qui peuvent marquer davantage tel ou tel ensemble. C'est quand nous verrons des psaumes déterminés, Dieu les restituerait, et que spécifiera davantage les choses. Alors les titres des psaumes, ils peuvent concerner, indiquer l'auteur d'un psaume. Par exemple, le psaume 90 parle de Moïse. Il attribue le psaume à Moïse. Et là, pour le coup, on remonte haut dans le temps, puisque l'Exode, c'est quand même 1200 avant le Christ. Beaucoup de psaumes sont attribués à David. Là, nous sommes vers l'an 1000, à la cour de David et Salomon. Puis il y a des psaumes qui se prolongent jusqu'au temps de l'exil et après. Donc, un psaume est attribué à Moïse, le psaume 72 est attribué à Salomon. Il y a des psaumes attribués à des personnages particuliers. Hein, les psaumes, vous l'avez vu, à Asaph, à Corée, à Yedutun, etc. Mais il y a un bon nombre attribué à David. Donc le titre peut concerner l'auteur du psaume, c'est précédé en hébreu de la conjonction, la préposition « le David », ça veut dire « de David », le Shlomo de Salomon, le Moshe pour de Moïse. Alors, ça peut concerner aussi le titre « La nature d'un psaume ». Parce que parfois, il est appelé, il y a le terme hébraïque, mizmor du verbe zamar, qui veut dire faire de la musique, et souvent rendu dans la traduction grecque par psalmos, qui a donné psaume, bien sûr. Dans la traduction grecque du psautier, dans les grands manuscrits du 4e, 5e siècle, on trouve deux psaumes différents. Dans le codex qu'on appelle Vaticanus, il s'agit de psalmoi, qui rend l'hébreu mismor, qui veut dire une louange chantée, et dans un autre codex, le Sinaiticus, psalterion, qui peut désigner l'instrument de musique, mais qui a donné, alors que psalmoi a donné psaume, psalterion a donné psautier en français. Alors, le psalmos, il y a aussi un mot qui intervient dans le grec, c'est, qui est rendu en français par ode, ode, par exemple, dans Éphésiens 5, 19, Paul dit aux Éphésiens, l'alumtos eotus, chantant pour vous-même, parlant pour vous-même, psalmoi, des psaumes, kai hymnos, par des hymnes, kai odais pneumatikai, ça veut dire des odes inspirées, pneumatiques, spirituelles, des odes inspirées. Donc une ode, ça peut désigner un chant aussi liturgique dans le grec. Et lorsqu'on dit psalmodie, ça veut dire sa mise en musique du psaume. Psaume, psalm, ode. Je reviens à l'hébreu, donc il y a les termes dans l'hébreu et puis les termes tels qu'ils sont rendus dans le grec. Je fais une petite discussion sur le grec. Je reviens, il y a un autre terme à côté de mismor, c'est tehilla, qui veut dire louange. Et en hébreu, le titre du livre des psaumes, c'est Sefer Tehillim, le livre des louanges, au pluriel. Tehillim, im, c'est la marque du pluriel. Et c'est utilisé dans le titre de plus en plus en avançant dans le psautier. Donc un premier verset dira Mismor, David, chant de David, ou bien Tehillah, louange en ce sens. Il y a encore un troisième mot qui est le mot shir en hébreu, qui veut dire un chant, un cantique. Et notamment dans l'expression shir amhalot, les cantiques des amhalot, ça veut dire les montées, les cantiques des montées, c'est ce mot-là qu'on trouve. Et enfin, il y a encore un mot proche de Tehillah, louange, qui est Tehillah, qui veut dire la prière. Ainsi, dans le psaume 72:20, c'est le mot utilisé pour dire « fin des prières de David ». Alors, dans la traduction française, on rend souvent ces différents mots par psaume, mais sachez qu'en hébreu déjà, il y a divers vocables pour spécifier un peu la nature d'un psaume. Pas une prière générale, soit vraiment, proprement parler, une louange, soit un psaume qui peut comporter des aspects relatifs, etc. Ça, c'est pour dire un mot des titres des psaumes. Donc, le titre peut comporter aussi des indications de circonstances. Je parcours, je suis dans la page 2 bis, la partie inférieure. Indication de circonstances, par exemple, psaume 3, psaume. On ne dit pas directement de qui, mais on voit bien quand il fuyait devant son fils Absalom. Le psaume 18, du chef de cœur, du serviteur du Seigneur de David, on dit qui est l'auteur du psaume et on le qualifie, et puis on donne les circonstances. Il adressa au Seigneur les paroles de ce chant le jour où le Seigneur le délivra de la poigne de tous ses ennemis et de la main de Saül. Le titre peut parfois donner des indications de genre littéraire. Psaume de confession, le psaume 7 de David. Il chanta au Seigneur sur couche le benjamite de la tribu de Benjamin. Le psaume 32 de David, instruction. C'est un psaume, on verra, d'un genre plus didactique, enseignant, encourageant, édifiant. Ou bien le psaume 129, Shirama Lot. C'est dans la catégorie chant des montées. Parfois, on a une indication d'un instrument sur lequel accompagner le psaume. Psaume 5, du chef de chœur pour flûte, psaume de David. Psaume 6, du chef de chœur avec instrument à 8 cordes, psaume de David. Donc, c'est des indications quand même qui nous ont renseigné sur la manière dont les psaumes non seulement être chanté, mais accompagné par des instruments. Parfois, il y a l'indication d'un air qui est connu, un air populaire, et on dit le psaume va être chanté sur l'air de la biche de l'aurore, le psaume 22, psaume de David. Et puis, il y a des indications qui restent obscures, sur lesquelles les spécialistes débattent, je ne m'attarde pas là-dessus. Mais on voit que les titres des psaumes donnent déjà quelques indications sur l'auteur, éventuellement les circonstances, la manière d'interpréter d'accompagner le psaume. La poétique, le titre d'un psaume, hein, concerner l'auteur d'un psaume. Je reviens à la page 1, l'aventure d'un psaume, l'exécution musicale et parfois des occasions liturgiques aussi. Shirama Lotse, dans le cadre liturgique des montées vers Jérusalem. La poétique psalmique, toute première approche, et on verra ça sur pièce, si je puis dire. Vous savez que le vers latin dans la poésie latine ou grecque est fondé sur la quantité, c'est-à-dire ça joue sur des syllabes longues ou brèves. Le vers français, du point de vue de sa composition esthétique, si vous voulez, il joue souvent sur le rime et le rythme. Le rythme, parce qu'on choisit de prendre des vers, des octosyllabes, des vers de 8 pieds, hein, et la rime, précisément, on marque la finale de chaque ensemble de 8 pieds, 8 syllabes, par ce qu'on appelle une rime. L'alexandrin, c'est un vers de 12 pieds en français, bien connu. Alors, le verset hébraïque, lui, ça c'est pour prendre des points de comparaison dans notre culture, le verset hébraïque, on parlera plutôt d'un verset d'un psaume que d'un vers d'un psaume. Le verset du psaume hébraïque, c'est un rythme fondé sur un certain accent tonique. Et souvent, le rythme du verset le divise en deux sticks. Quand vous avez vos traductions de votre Bible, un stick, S-T-I-Q-U-E, ça veut dire un demi-verset. Parfois, il y a des divisions ternaires, trois sticks. Mais si vous prenez une Bible, vous avez le numéro du verset et vous voyez que typographiquement, il est disposé sur deux ou plusieurs lignes. C'est chaque fois un stick. Comme on Donc il y a un certain rythme, même dans le psaume, avec des accents toniques. Et puis il y a aussi une musicalité, ce qu'en français joue sur le français joue sur la rime, avec parfois une richesse sonore à l'intérieur du rime, du vers, qu'on appelle des rimes internes. Mais le hébreu aussi joue pas mal sur la musicalité des sonorités. Il n'a pas de rime comme telle à la fin du verset, mais à l'intérieur du verset, vous devrez entendre, c'est truffé parfois de ce qu'on appelle des assonances, ça veut dire des sons vocaliques qui sont les mêmes. Assonance, se méprendre, et vous avez commun le son vocalique en. Ou bien des ce qu'on appelle des allitérations, là c'est des jeux sur les consonnes. Je vais donner tout de suite quelques exemples en français et en hébreu. Donc, dans la poésie hébraïque, la poésie psalmique, il y a un certain travail sur le rythme, il y a un certain travail sur les musicalités, et puis, on le verra, il y a un travail sur les contenus des sticks avec certains parallélismes où on reprend deux fois la même idée mais avec des mots différents, synonymes. Un parallélisme synonymique, c'est-à-dire en deux mouvements, A et puis A', on dit la même chose avec des mots différents qui se répondent. Mais il peut y avoir aussi un parallélisme qui oppose les choses. Un parallélisme antithétique, on dit, qui fait valoir un contraste. C'est-à-dire, c'est bâti de la même manière, mais du point de vue du contenu, il y a non pas une synonymie, une similitude, mais un contraste entre les deux idées. Et puis, enfin, il peut y avoir des parallélismes amplifiants. On dit une idée une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et on sent que on monte en intensité, en crescendo. Une répétition qui va en s'amplifiant. C'est dit de manière encore très globale, on va le voir davantage sur Dieu. Je ne vous en dis pas plus pour le moment sur la poésie psalmique. Alors, dans les psaumes, vous avez des, on peut distinguer des familles de psaumes en fonction des genres littéraires. Alors là, si vous avez la Torbe, allez lire l'introduction de la Torbe qui est très bien faite, n'est-ce pas, hein, l'introduction de la Torbe, la faute copier, j'ai travaillé, c'est une dizaine de pages, c'est précis, et bien là, il vous détaille un peu ce dont je vous ai mis simplement, en quelque sorte, le titre de paragraphe, ici. Des psaumes de louange, parmi lesquels on trouve des hymnes au Seigneur de la création de l'histoire, des chants du règne, c'est-à-dire qui louent le Seigneur spécialement pour le roi, ou bien le Seigneur lui-même comme roi de son peuple, les cantiques de Sion et les psaumes des montées, et enfin les psaumes royaux et messianiques de manière générale, qui se tournent vers le Messie à venir dans la lignée royale. Donc ça c'est le psaume davantage de louange. Puis il peut y avoir des cris à partir de situations éprouvées. Des cris d'appel au secours, d'individus ou bien de la communauté, ou bien les cris où la confiance prédomine, ou bien les cris où c'est des prières de reconnaissance. Et parfois, dans un même psaume, on a la suite des trois tonalités. On appelle au secours, et on redit au Seigneur, mais j'ai confiance, tu vois, mais je le sais, et puis le Seigneur, on sent que le Seigneur a répondu et on lui en rend grâce. Je prends, par exemple, pour ne pas être simplement scolétique, quelques éléments de ce que dit l'introduction de la Tobe sur ce cri à côté des louanges. Une famille de psaumes se laisse percevoir comme distincte et ils ont une origine commune dans une situation de détresse. L'appel au secours, la prière de confiance, accompagne ou précède une crise. L'action de grâce en décrit l'heureux dénouement. Elle remercie l'auteur de la délivrance. Et, comme je le disais, parfois un psaume unique fait passer par ces diverses attitudes. Supplication, confiance, reconnaissance sont étroitement associées. Ces prières émanent tantôt d'un individu, et elle reflète plutôt sa piété personnelle, tantôt de la communauté qui est rassemblée pour une célébration liturgique. Il ne faut pas trop durcir cette distinction entre l'individuel et le collectif, parce que le fidèle, même s'il crie, s'il exprime son psaume dans l'assemblée, bien, n'est pas seul. Lorsque les psaumes sont priés dans une assemblée, on peut être sûr qu'il y a à la fois un aspect d'appropriation personnelle et communautaire. Chaque fidèle le reçoit en fonction de sa situation spirituelle. Peut-être que ce jour-là il est joyeux et qu'il n'a pas envie de prier un psaume de détresse, mais le fait qu'il le prie avec d'autres le convie à compatir à la détresse d'autres à ce moment-là, et parfois inversement. Donc il y a toujours cet aspect d'appropriation personnelle, et en même temps on est en communion avec une assemblée. Les appels au secours, individuels ou collectifs, d'habitude, se développent sur un rythme à quatre temps. Invocation du nom divin, c'est intéressant de voir comment on appelle le Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ô mon roi, c'est invocation du nom du Seigneur, suivi d'un cri d'imploration, on implore, je me tourne vers toi, je t'implore. On expose sa situation en suppliant et éventuellement on exprime la confiance qu'on met dans le Seigneur, la certitude d'être exaucé. Les prières individuelles occupent à elles seules presque le quart du recueil des psaumes. Quand même beaucoup de prières individuelles, et là, la Torah en donne les numéros, 38 psaumes. Les hommes se plaignent plus souvent qu'ils ne jubilent, commente la Tobe. La description de la détresse permet de découvrir dans les plaintes des affligés, la condition concrète des suppliants, les épreuves personnelles ou celles de leur peuple, des pénitents, des malades, des persécutés, des accusés, des réfugiés, des exilés, des déportés. Quand même, toutes ces situations de détresse ont leur place dans le psautier. Et puis, une meute d'ennemis s'agite dans la plupart des supplications. Pour désigner les persécuteurs, les psalmistes puissent, dans un vocabulaire copieux, etc., ils dépeignent l'activité des agresseurs à l'aide de traits plus ou moins conventionnels et des métaphores nombreuses et variées. Métaphore, c'est une comparaison qu'on sent être une comparaison concrète pour dire une réalité plus intérieure ou affective. Une comparaison est explicite, elle dit « je suis comme ». Une métaphore utilise l'image et on comprend que ça veut dire « je me compare à ». Et notamment pour désigner les ennemis, eh bien, il y a la métaphore des guerriers, des chasseurs équipés de filets, de bêtes féroces, de lionceaux, de taureaux, de buffles, de chiens, de serpents, etc. Les fameux bestiaires. Et les ennemis, pour atteindre leur but, recourent à toutes sortes de procédés, en particulier des paroles malveillantes ou malfaisantes, faux témoignages, calomnies, médisances, malédictions, etc. Le psautier ne manque pas de vocabulaire pour décrire cela. Voilà, c'est un petit extrait de la présentation de la je vous ai lu 10 lignes, mais il y en a 15 fois plus. Hein. Donc, ça vaut la peine, si vous avez le temps, de lire cette introduction au psautier. Alors, à côté de ces cris, il y a des psaumes d'instruction plus sapientiels et didactiques, un peu dans la tonalité du livre des Proverbes, des écrits de sagesse, où le psaume instruit celui qui le prie en redéroulant l'histoire sainte. Souviens-toi des merveilles du Seigneur, et puis on rappelle les grandes étapes de la vie du peuple. À l'occasion de liturgie, on en profite pour faire valoir à celui qui va prier le psaume les qualités que Dieu attend de lui pour qu'il soit digne d'entrer dans le temple. Donc, c'est une manière d'instruire sur les bonnes dispositions à avoir pour participer à la liturgie. Il y a des psaumes d'instruction, d'exhortation de type prophétique ou d'instruction sapientielle. Vous trouvez dans l'introduction de la top pas mal d'exemples à cet égard. Je vais maintenant passer à la page 2, pardon, 2, la page 3, vous avez donné la fois passée, pour en venir à l'écriture et la poésie psalmique. La poésie et le chant sont importants en toute culture, de manière variée, mais que vous tournez vers l'Amérique latine, vers l'Inde, vers l'Afrique, la poésie, le chant, hein, comme expression de l'homme, de ce qu'il vit, de ses sentiments, sont importants dans toute culture. Et on voit que en Israël, les chantres, les poètes, ont une importance particulière. On en a un indice dans un extrait du livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 44, les versets 1 à 5. Pour introduire à ce livre de l'Ecclésiastique, hein, qui porte un autre nom, le Siracide, sagesse de Ben Sirac le Sage, ou Ecclésiastique, c'est le même livre, eh bien, dans une sorte de préface, il dit « Faisons l'éloge des hommes illustres de nos ancêtres dans leur ordre de succession. » Et puis, il commence. « Des hommes exercèrent l'autorité royale et furent renommés pour leurs exploits. D'autres furent avisés dans les conseils et s'exprimèrent en oracle prophétique. D'autres régirent le peuple par leurs conseils, leur intelligence, de la sagesse populaire et les sages discours de leur enseignement. » Donc, au rang des hommes illustres, il va y avoir des rois, il va y avoir des prophètes, il va y avoir des juges et des sages, des enseignants, et puis, d'autres cultivèrent la musique et écrivirent des récits poétiques. Et donc, le genre psalmique, qui comporte une interprétation musicale et qui comporte une part de poésie psalmique, eh bien, est rangé au courant de ceux auxquels on peut, comme auteur, attribuer la reconnaissance d'homme illustre dans le peuple. Voilà un passage qui montre l'importance de la poésie et de la musique aux yeux de l'auteur biblique. Au départ de la poésie, il ne faut pas s'en faire une idée trop lyrique, en tout cas la forme poétique dans l'attention prêtée à la métrique et à ce qui frappe l'oreille, a eu au départ une fonction plutôt mnémotechnique dans les cultures. C'était pour se souvenir de généalogie d'ancêtres, avec un type de refrain qui revient, ou bien de prescriptions juridiques, un certain nombre de commandements, etc. Et on retenait mieux les choses si elles étaient mises dans une forme qui se prête à mémorisation, ce qu'on appelle les procédés mnémotechniques. Et se sont ainsi développés des procédés, et puis ils ont été mis en un second temps alors au service de causes plus profondes, si je puis dire, de la prière, parce qu'on souhaitait aussi connaître, assimiler des prières par cœur. Et les psalmistes n'ont pas été en reste dans la manière de soigner la sonorité des psaumes pour que, pour le juif, dont le coup est la langue mentale, il puisse, cette sonorité et cette métrique puisse soutenir sa mémoire de ses prières. Donc, pour la mémoire orale. Et donc, d'une fois, moi j'ai appris 3-4 psaumes par cœur, en hébreu, je pensais impossible au départ, puis j'ai constaté en apprenant le premier, Ashreyaï, Shacher, Loana, Gwad, Satre, Chahim, Kantaïm, je vous le lirai intégralement, le premier psaume, que finalement ça rentrait parce qu'il y a une musique dans le psaume. Pas ouais, facilement qu'en français, mais quand même. Et donc, c'est une des preuves que les procédés utilisés par les psalmistes, ce point-là, sont fructueux. Alors la musique des mots, ça c'est pour dire de la manière générale, la musique des mots est du phrasé. Des assonances, des allitérations, des répétitions incantatoires. Je vous ai mis à la page 4 quelques exemples d'assonances et d'allitérations. Les assonances, disaient, jouent sur les voyelles. Par exemple, prendre des extraits de Verlaine et de Mallarmé. Verlaine, dans l'art poétique, il loue et il donne des conseils pour bien écrire en poésie. À propos de la rime, il dit que la rime, c'est délicat à manier. Elle peut être belle, mais elle peut être un peu trop criarde. Et à ce propos, il dit, quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou. Vous sentez le jeu des sonorités en ou. Hein? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou. Ou bien, chez Mallarmé, vaporeuse tirée de mourantes violes, de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles, vous sentez les assonances en l'occurrence. C'est ça qu'on appelle des assonances. Alors les allitérations, elles jouent sur les consonnes. Donc ça c'est l'exemple en français, mais dans le texte hébreu, c'en est truffé pour l'oreille hébraïque. En français, de nouveau, dans la poétique de Verlaine, il dit de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, c'est-à-dire le vers qui a un nombre impair de syllabes, qui est un peu moins carré, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Le vers de nombre impair de syllabes, il y a sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Santé, aise, pose, point de vue consonantique. Ou bien, que ton vers soit la bonne aventure et parse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature. Et tout le reste est littérature. De l'heureux, de l'heureux, de l'heureux. Et tout le reste est littérature. Ça sonne dans la bouche et à l'oreille. Comme jeu d'assonance, d'allitération très travaillé. Les deux sont parfois combinés. Oh, la nuance, seule fiance. On a le en et comme des rimes très proches. Et comme le soleil dans son enfer polaire, ça c'est le mot de l'air, hein, ol, ol, qui fait rimer soleil avec polaire, quand même audacieux. Hein, donc ça. Alors en hébreu, par exemple, le psaume 1, Asher Aish, Asher Loralak, Platsat Rechaim, heureux l'homme qui ne va pas dans le conseil des méchants. Mais vous sentez, Ashre Ali Shacher Loalak Batsat Rechaim, Shere A-E-R-A-I. Ça sonne. Verset 5b, Vahatahim Vahadat Sadiki. Et les pécheurs dans le conseil des justes. Vahatahim Vahadat Sadiki. Ou bien dans le psaume 8, au Seigneur notre Dieu, qui est grand en nous par toute la terre. Et puis à un moment, il se demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes, le fils d'Adam pour que tu penses à lui. Et bien dans l'hébreu, ça se dit, ma enosh kitiskorenu, ou ben Adam kitifkorenu. Il y a juste une différence dans les deux verbes. Le verbe qui dit le souvenir, que tiskorenu, que tu te souviennes de lui, ou bien que tifkodennu, que tu penses à lui. Donc il y a un travail sur les deux verbes. Ou bien dans le psaume 6, te casserez-vous pour dire tu l'as fait manquer de peu par rapport aux anges, et puis de gloire et d'honneur, tu l'as couronné. Te hâterez-vous. Dans le même verset, vous avez les deux verbes. Te casserez-vous, te hâterez-vous. Le « vous » étant le complément donc je dirais « lui ». Voilà des exemples. Donc, sachez que lorsqu'on lit les psaumes, certains psaumes sont particulièrement travaillés de ce point de vue. Alors, ça c'est pour le jeu des sonorités, assonance et allitération. Pour ce qui concerne le rythme syllabique, par exemple, le psaume 34, « Avareka et Adonai bekol et »« Je lirai le Seigneur en tout temps » Tamit, Filato, toujours la louange de lui, sa louange dans ma bouche. Et on, si on le rend en français, on sent que ça se décrit en trois, une phrase avec trois accents rythmiques. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. C'est le cœur de chaque personnage, de chaque signe. Alors on peut avoir des rythmes à trois appuis. Je vous ai dit des choses en français, mais sachez quelles sont la transposition exacte de ce qui se passe dans l'hébreu. Trois appuis. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Vous voyez déjà, pour le contenu, un parallélisme, évidemment. Rendez grâce, jouez, appuyez sur la cithare, ou la harpe. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Ou à quatre appuis, qui est déjà plus solennel. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Quatre appuis de chaque fois. Et puis encore, un exemple de rythme à cinq appuis, mais alors généralement réparti en 3 plus 2. Lorsque ça devient un peu long, c'est comme l'alexandrin qui est divisé en deuxième estiche de six pieds. Parce que d'où c'est trop difficile à embrasser d'un coup pour l'autre. De même, quand ça s'allonge, alors il y a une répartition. Voilà pour le rythme syllabique. Alors, ça c'était pour la musique des mots et du phrasé. Je vous donnais déjà une petite idée. Troisième point, se situera à la page 3, les procédés, comme feuille de route, si vous voulez, les procédés qui relèvent du vocabulaire. C'est-à-dire comment les mots. Texte d'un psaume est construit. Il peut y avoir parfois dans un psaume une inclusion globale. Ce qu'on appelle une inclusion, c'est un élément atypique qui revient de part et d'autre d'un ensemble qui a une certaine homogénéité. J'avais donné un exemple dans le cours sur Saint Matthieu, vous en souvenez peut-être, le chapitre en parabole, il y a un mot qu'on ne trouve que là chez Matthieu et même dans tous les évangiles. Le mot rivage, qui est typique dans le grec, qui intervient au début et à la fin. Au début pour dire Jésus était là et toute la foule était là sur le rivage. Enfin. Et puis la dernière image que Jésus utilise, c'est de dire, c'est comme le filet dont on déverse les poissons sur le rivage et on le trie. Et ça, c'est un petit procédé de composition littéraire où Matthieu signait qu'il avait voulu inclure ainsi entre ces deux mots hein, l'ensemble de son discours en parabole. Je donnerai d'autres exemples. C'est ça pour définir ce qu'on appelle une inclusion. Le psaume 8, je vous l'ai dit, « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom partout l'univers », il intervient après le verset de titre au deuxième verset et puis au dernier verset. Il englobe tout le psaume. Et donc, il nous indique qu'on se tourne vers le Seigneur de l'univers pour le louer, mais au cœur du psaume, c'est les fameux versets « Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui ?» ou « L'homme est magnifié » dans le plan divin. Le psaume 6, au verset 3-4, « Je tremble de tous mes os, je tremble de toute mon âme. » Et à la fin, au verset 11, « Repris qu'ils aient honte et qu'ils tremblent tous mes ennemis. » C'est le même mot qui fait inclusion, mais bien sûr avec une portée différente. Ou bien le psaume 103, le verset au début, « Bénis le Seigneur en mon âme, que tout mon cœur bénisse. » Et ça se termine aussi en « Bénissez, bénissez, bénissez. » Évidemment, l'inclusion est plus forte si les mots en question n'apparaissent essentiellement que là. Si ça intervient tous les deux ou trois versets, bien, c'est ce qu'on appelle un leitmotiv, c'est plus une inclusion. Okay. Inclusion partielle, parfois dans un psaume, il y a quelques exemples, c'est-à-dire qui à l'intérieur d'un psaume permettent de délimiter, en quelque sorte, diverses portions du psaume, et qui chacune sont encadrées au début et à la fin par un mot qui se répond. Exemple sous les yeux, psaume 103. Donc, ce qui peut contribuer à structurer le psaume, ça peut être un procédé d'inclusion globale de tout le psaume, ou bien qui détermine des sous-ensembles, mais aussi, bien sûr, l'homogénéité de pensée qui s'exprime dans des registres lexicaux, le vocabulaire. Par exemple, dans le psaume 6, on voit, on peut repérer quelques thèmes qui s'expriment à travers des mots variés. Le thème de la souffrance, mais les questions de dépérir, de trembler, de mort, de s'épuiser, de gémir, de trembler, de larmes, de chagrin, de sanglots, etc. Hein? Donc ça ne manque pas de vocabulaire varié. Et l'hébreu, même s'il a un vocabulaire limité, je dirais, à un vocabulaire riche pour exprimer les sentiments de l'homme et les sentiments dans la prière. Vous savez que la richesse d'un vocabulaire dépend aussi un peu de la culture d'un peuple et de son expérience. Il paraît que chez les Esquimaux, ils ont 20 mots différents pour désigner la neige, selon que c'est de la neige dure, molle, je ne sais pas quoi. Ça fait partie de leur expérience. Eh bien, le vocabulaire affectif de la prière en hébreu est riche. Donc, pitié, invoquer, rendre grâce, demander, prier, etc. Du pardon et du salut, il y a beaucoup de mots différents pour exprimer l'action de salut, guérir, délivrer, sauver, etc. Et une série contre. Donc, c'est ce qu'on appelle des champs lexico-sémantiques. Sémantique, ça veut dire ce qui a trait au sens. Et donc, on dit, ici, il y a une tonalité dans tous ces versets de contrition. Et puis lexical, ça veut dire qu'on le repère à partir de mots précis, de vocables précis. Le psaume 19 engage un vocabulaire cosmique, le vocabulaire de la bonne nouvelle, dans sept premiers versets, et puis après, on a le vocabulaire de la loi, celui de la consolation et de la justification. Le psaume 119, qui est le grand psaume de la loi. J'aime, Seigneur, tes volontés, tes commandements, ton désir, etc. Eh bien, les harmoniques du mot loi, ce qui désigne l'amour de la loi, dans les strophes de 8 versets, hein, eh bien, il y a des harmoniques très nombreuses. Ta parole, ta promesse, tes commandements, tes volontés, tes décisions, tes ordres, tes préceptes, tes exigences, c'est autant de synonymes pour exprimer la loi dont on dit l'amour. Ça, c'est pour le vocabulaire. Il y a à côté de, de cela des mots accroches. J'ai pas mis d'exemple sur le texte. Ça veut dire des mots qui font la jonction entre deux strophes d'un psaume, qu'on reprend, et qui peuvent aider à enchaîner la mémoire des strophes successives. On a la même chose en poésie ou en chant populaire en français. En passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots d'Ordaine. D'abord tout est en N, la même, la reine, etc. Et puis, à la deuxième strophe, on reprend la fin de la première et on ajoute. Hein? Je ne suis pas civilien, enfin vous connaissez la chanson populaire. C'est comme ça qu'elle fonctionne, par mot accroche. Dans la strophe suivante, on reprend la finale d'une strophe précédente. Et ce qui permet qu'une fois qu'on a démarré le début, si on a un peu de mémoire, tout se déroule comme un chapelet. C'est ça qu'on appelle un peu les mots accroches. Et bien, pour certains psaumes, nous avons les psaumes des montées, où on n'était pas là à gravir le chemin avec son psautier en main. D'ailleurs, la plupart des fidèles ne savaient pas nécessairement lire, c'était simplement écrire. Eh bien, pour entretenir la mémoire, ils étaient construits de cette manière. Alors, il y a des psaumes qu'on appelle les psaumes alphabétiques. Ça, c'est une petite prouesse technique qui consiste à commencer les versets respectifs d'un psaume par chaque fois une lettre successives de l'alphabet hébraïque. C'est comme si vous écriviez un poème, c'est ce qu'on appelle parfois aussi en français des poèmes acrostiches, où la première lettre de chacun des vers forme un mot. Hein? Mais ici, le procédé, c'est de dire, je vais commencer mon premier verset par la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, mon second par la seconde lettre, Aleph, et Gimel, et on décline tout l'alphabet hébraïque. Il y a quelques psaumes comme cela. Ce qui suppose quand même, évidemment, une grosse maîtrise technique, puisqu'évidemment, si on ajoute, plus on ajoute de contraintes, plus il faut être quand même virtuose pour en même temps, que ce ne soit pas simplement un exercice formel, mais exprimer ce qu'on veut exprimer. Et sachez que ça existe aussi. Enfin, la force des images et des métaphores, ça j'ai mis un exemple par exemple. Je suis comme l'eau qui se répand, mon cœur est comme la cire, ma vigueur est séchée comme l'argile. Ça, c'est inhérent à la poésie que de prendre des réalités extérieures, palpables, pour exprimer des sentiments, des états d'âme. Par exemple, vous connaissez ces beaux versets du psaume 103. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin que le levant de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. On trouve une image de la distension la plus extrême pour dire, eh bien, le Seigneur met loin de nous nos péchés. Les métaphores sont nombreuses pour parler des ennemis, de leurs pièges, de la protection divine, du peuple de Dieu, etc. Je prends la page 6 pour désigner encore un petit aspect de la construction que j'ai sauté, c'était le point 2, pardon, c'est ce qu'on appelle une construction en chandelier. Alors, ce type de construction, les inclusions, selon vous, ne jouent pas partout, hein, c'est pas systématique, mais c'est bon de savoir que ça peut exister et que parfois c'est probant pour comprendre quel est le cœur du psaume. Je vous donne un exemple profane et puis un exemple dans l'Évangile. Il y a un poème de Paul Verlaine intitulé « Promenade sentimentale ». J'ai mis le texte tel qu'il se déroule. Et puis, en fait, il y a quatre premiers vers qui forment un tout, le couchant dardait ses rayons suprêmes et le grand verset des nuits fermées, les grands nénuphars entre les roseaux, tristement amusés sur les calmes eaux. Et ces quatre rythmes-là du début sont reprises dans les quatre derniers vers. Voyez. Suprême, blême, roseau, eau sont repris. Suprême, blême, roseau, eau. Eau, quatre derniers vers. Donc les quatre premiers et les quatre derniers. Donc quatre, quatre. Et puis entre les deux, il y en a huit autres vers. Et qui sont construits, c'est ce que je vous ai mis dans la partie intérieure, de manière très rigoureuse. J'irai tout seul promenant ma plaie, et puis plus loin, j'irai tout seul promenant ma plaie. Je vous ai mis les éléments qui se répondent respectivement. Et finalement, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a deux participes présents, se désespérant et pleurant, qui sont le cœur de ce qu'il veut exprimer dans ce poème, promenade sentimentale. Et c'est construit, comme on dit, en chandelier, parce que vous voyez un chandelier à plusieurs branches. Les branches, par leur hauteur, se répondent respectivement. Et puis, il y a un centre. Hein, une construction de ce type-là. Si je prends, ça c'est un exemple profane, si je prends un exemple, dans le Benedictus de Zacharie, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, compris à l'office le matin », eh bien, je ne dis pas que tout le contenu se résume à cela, mais il est quand même assez pertinent de voir que si on prend une traduction littérale qui respecte, je dirais, les mots dans le grec, on voit aussi une série de correspondances. L'alliance faite à leur père intervient au cœur de la construction du Benedictus. Et vous voyez que d'autres vocables se répondent, les ennemis en regard, la disposition met en évidence des termes clés au centre. Donc c'est une construction formelle assez raffinée, mais qui n'est pas simplement pour la beauté esthétique. Elle vise à faire valoir au centre de la construction ce qui a plus de poids. Je vous ai mis par 7 des exemples de parallélisme c'est un procédé qui relève du rythme synonymique. Seigneur, non pas dans ton colère, j'ai fait une transposition littérale de l'hébreu. Hein. Seigneur, non pas dans ta colère ne me reprends, ne me reprends pas dans ta colère, et non pas dans ta fureur ne me punis. On voit deux sticks construits en parallèle. Plus loin, Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui habitera ta sainte montagne. On voit comment les choses se répondent. Donc, c'était pas un parallélisme synonymique, un esprit dans la même idée. Un exemple de parallélisme qui décline les choses en séquences multiples. La loi du Seigneur est parfaite, faisant revenir à la vie. La charte du Seigneur est fiable, rendant sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, réjouissant le cœur. L'ordre du Seigneur est limpide, illuminant les yeux. Vous voyez comment c'est construit de manière rigoureusement parallèle. Des parallélismes synonymiques en chiasme. Un chiasme, c'est une figure croisée. Ou dans le deuxième style, en premier, on a AB et dans le second, on a BA. Et donc, ça fait un croisement. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples murmurent en vain? D'un côté, ils s'agitent et de l'autre côté, ils murmurent en vain. C'est les verbes. Et de l'autre côté, c'est les dénominations, les nations, les peuples. S'insurgent les rois de la terre et les princes complotent ensemble. Et puis l'invective au verset 10, et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle des parallélismes, je dirais, croisés, en chiasme, de la lettre qui, en grec, qui s'écrit comme ça. En chiasme, autour des verbes en parallèle. Les cieux proclament la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains la raconte le firmament. D'un côté, le sujet est au début, les cieux, et de l'autre côté, il est à la fin, mais le verbe au milieu, le verbe se répond, proclame et raconte. Et la gloire de Dieu qui correspond à l'œuvre de ses mains, qui la laisse transparaître. Plus complexe, car il n'y a pas dans leur bouche de sûreté, et en leur fond, il n'y a que bruit. Ça, c'est des parallélismes où on joue sur les synonymes, c'est-à-dire les mots à rapprocher pour le sens. Maintenant, on joue sur des mots qui sont en contraste pour le sens. Ceux qu'il bénit posséderont la terre, ceux qu'il maudit seront extirpés. La construction est en parallèle, mais les idées sont directement antagonistes. En chiasme, il connaît le Seigneur le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. C'est dans le psaume, c'est la finale du premier, du psaume 1, comme on le sera la fois prochaine. Ou bien, le parallélisme encore autre, Il emprunte l'impie et ne rend pas, mais le juste a pitié et il donne. Le livre des Proverbes travaille beaucoup cette forme-là aussi. Hein. Mais dans les psaumes, c'est vraiment dans tous les psaumes. Il y a aussi des parallélismes synthétiques, chronologiques. Il soutient les pauvres, le Seigneur. Il avait ses impies jusqu'à terre. Bien, des triplements. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Ah, c'est le parallélisme. Plus simplement entre deux stiques, mais trois. Voilà quelques exemples. Pour la traduction des psaumes, je termine par là. Les pages 8 et 9 que je vous ai données, je vais garder pour mémoire, mais c'est pour que vous mesuriez que quand on traduit d'une langue à l'autre, évidemment, on dispose, selon le contexte, de plusieurs mots. Et il arrive quand même mot hébraïque, et c'est ceux qui sont répertoriés, là, il y a 7 pages sous la colonne de gauche, à la page 8, un même mot hébraïque, mais vous voyez qu'il peut être rendu, selon les auteurs, la top de 2011 rend le mot chesed de plusieurs manières, fidélité, bonté, loyauté, grâce, la Bible de Jérusalem aussi, amour, grâce, bonté, etc. La traduction liturgique aussi. Alors, il y a Souraki qui opte, dit, je prends un seul mot français pour traduire toujours le même mot hébraïque. Grâce. Mais les Bibles courantes, la Bible de Jérusalem et la Tob, se rendent bien compte que même dans nos langues, un même mot utilisé dans des contextes différents va avoir des nuances différentes. Prenez un article de dictionnaire ou un mot important, on va vous donner 10 exemples où le mot peut avoir tel sens, selon tel contexte, tel autre, etc. Et donc, selon une traduction, une transposition littérale a le mérite de faire comprendre, mettons que c'est le même mot hébraïque qui revient, ça oui, mais une traduction courante, c'est le but de la Bible de Jérusalem, de la top, de la traduction du livre, et de faire comprendre la portée du mot à ce moment-là dans son contexte. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs mots différents. Voilà, donc c'est pour vous expliquer comment fonctionne cet tableau. Je prends un exemple à la page 9, un exemple frappant. Prends pitié, Elohim, dans ta tendresse, dans ta miséricorde, selon l'abondance de tes entrailles, de ta miséricorde, efface mon péché. Alors, vous avez la traduction latine de la Vulgate, et puis, voyez, j'ai mis toute une série de traductions, mais vous pouvez les lire sur le verset. Les variétés ne sont pas à l'infini, mais quand même nombreuses. Fais-moi grâce, Dieu, dans ta fidélité, comme l'abondance de ta compassion efface à des révoltes. C'est l'interlinéaire hébreu-français, c'est-à-dire on vous donne le texte hébraïque et en dessous on vous met, chaque fois, entre les lignes, la traduction française, mot à mot. Bon. Gracie-moi, Dieu, selon ta tendresse, selon l'abondance de ta miséricorde, efface mes transgressions. C'est la traduction littérale proposée par le prédateur Makers, etc. Hein? Eh bien, j'ai résumé les variations possibles en bas de la page. Là. Hein? J'ai mis que Kasdecha, ça veut dire la recette, elle est rendue tantôt par fidélité, tendresse, loyauté, miséricorde, bonté, grâce, ou même une périphrase, toi qui es bon. Hein? Et puis, Rakamecha, c'est ce qui sort, la compassion qui sort des entrailles, et bien c'est rendu par compassion, miséricorde, tendresse, montée, clémence, etc. Okay. Ceci pour que vous compreniez pourquoi les traductions peuvent être variées, et bien sûr pour apprécier ou juger la portée d'une traduction, si on a la chance de connaître la langue originale en grec ou en hébreu, ça facilite les choses. Mais souvent, c'est les notes de vos Bibles qui vous aident à comprendre. On le traduit ici comme cela parce que on en donne le motif. Enfin, pas encore 2 minutes. La page 10. Les psaumes est un des livres qui a été, évidemment, puisque c'est pour la prière, et que tout le monde ne pouvait pas commencer à apprendre les psautiers en hébreu, voilà. Et ça a été traduit dans les langues vernaculaires, les langues courantes des peuples. C'est un des livres les plus traduits de la Bible. Et même Clément Marot, des poètes, se sont essayés, puisqu'il disait que ça a une certaine qualité esthétique dans l'hébreu, on va essayer en français, évidemment dans les principes métriques, la rime sont différents, mais de donner aussi une forme esthétique. Et donc, il s'est essayé, pour le psaume 24, à faire des orthosyllabes, des vers de 8 pieds. Et puis, la terre au Seigneur appartient. Tout ce qu'en sa rondeur contient, et tous ceux qui habitent sur elle, sur mer, fondement, lui donna, l'enrichit et l'environna, de maintes rivières très belles. On sent que c'est au passage un peu fleuri. Hein? Donc de temps en temps, pour trouver une rime, ben, il doit faire preuve un peu d'imagination, etc. Mais à l'époque, ça a eu un succès extraordinaire. Et aussi bien les catholiques que les protestants utilisaient le psautier de Clément Marot, parce que, et la même musique, parce que ça se retient plus facilement à l'oreille. Mais sa montagne est un saint lieu, qui viendra donc au nom de Dieu. Qui est-ce qui là tiendra place? L'homme de main et de cœur lavé, en vanité non élevée, et qui n'a juré enfin lasse, c'est-à-dire en fausseté. Hein? Dans le vocabulaire de l'époque, mais il fait des... Pierre Corneille, le psaume 6. Des alexandrins et des octosyllabes. Je l'avouerai, Seigneur, votre juste colère ne peut avoir pour moi trop de sévérité. Mais ne me corrigez qu'en père, et non pas en maître irrité. Déjà d'un niveau supérieur. Avec compassion, regardez ma faiblesse, je souffre sans relâche, ayant dit sans repos, guérissez-moi, le mal me presse, et passe jusque dans mes os. Donc les deux premiers vers sont toujours des alexandrins. Je l'avouerai, Seigneur, votre juste colère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, mais ne me corrigez qu'en père, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque fois, deux alexandrins. Et pour les rimes, ce sont des rimes qu'on appelle alternées. Vous voyez bien, colère rime avec père, sévérité avec irrité, etc. Et puis une traduction importante, célèbre, du maître de Sacy dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui ne cherche pas à faire de versification, mais qui se veut quand même de grande qualité, et c'est le cas en français. Ça, c'est pour vous donner quelques exemples de tentatives qui ont été faites de transposer des psaumes en langue française sous une forme qu'on voulait esthétique et favorisant la mémorisation. Voilà, merci de votre attention. La fois prochaine, je dirai un petit mot des quatre pages, simplement pour que vous sachiez à quoi ça peut correspondre. Les quatre pages d'instruments de travail que j'ai données, pour que vous sachiez que certains instruments de travail existent. Par exemple, je donne un exemple pour terminer par là. Sami Ebraici, traduction interlinéaire, qui m'a beaucoup aidé, moi, il fait une petite édition. C'est l'italien, et j'ai chaque fois le texte hébraïque et la traduction en italien. Et maintenant, il existe avec la traduction toute la Bible interlinéaire, on a cela aussi en français. Mais à l'époque, ça n'existait pas encore, il y a une trentaine d'années, et donc moi je me suis rabattu, comme j'étudiais à Rome, sur l'italien, mais évidemment, ça aide fameusement de faire du mot à mot. La traduction mot par mot. Voilà, bonne soirée.